Chapitre 13. Décadence d'une grande institution. Il y avait quelque chose d'extraordinaire ce soir dans le petit salon du café Massenet, qui servait de lieu de réunion aux membres du club des bonnets de soie noire. Ces messieurs étaient venus assez tard. Les garçons avaient pu remarquer chez eux de l'agitation et du souci. Ils étaient pâles, inquiets. Tout, jusqu'à leur costume, sentait le trouble. Et il y eut, au billard, de mauvaises langues pour dire « Ah, ça va mal, on jurerait une volée de banqueroutiers qui va partir pour la Belgique ». La poésie et l'histoire ont consacré chèrement la gaieté de nos soldats aux heures qui précèdent la bataille. Tant qu'il y aura des maîtres pour tenir le pinceau, on éclairera des lueurs rougeâtres du bivouac le sommeil paisible de Napoléon à la veille d'Austerlitz. Il y a des anecdotes légendaires sur la tranquillité un peu bourgeoise de Turenne, sur la splendide confiance de Condé et sur la soif héroïque de Vendôme. Henri IV seul fut accusé de colique, dont il se guérissait à grand renfort de bons mots et d'estocades. Nous sommes un peuple rieur, insouciant. Notre vaillance est dans notre gaieté, et nos bandits eux-mêmes furent de tout temps d'excellents personnages de comédie. Et pourtant, dit-on, un vent de tristesse passa sur nos camps vers les derniers jours de l'Empire. La veille de Waterloo fut mélancolique. Ces messieurs étaient là, mornes et de mauvaise humeur, autour de la table où brûlait le punch au kirsch. Les habitués du billard avaient raison. Aucun d'eux ne portait son costume de tous les jours. Malgré la saison d'été, ils avaient tous un double vêtement et leurs poches gonflées parlaient de déménagement. « Il va faire un temps abominable, » dit Comérol, d'un accent méridional baissé de plusieurs tons. « Un temps affreux, » répétèrent toutes les voix à la ronde, avec des inflexions diverses et plaintives. Le bon Geoffrey ajouta, « Ce n'est pas à jeter un chien dehors. » Par le fait, l'orage que nous avons vu menacer tout à l'heure sur le quai commençait à se déchaîner. On entendait la pluie tomber à torrents et le vent secouer les volets fermés de la fenêtre. « Nous avons tous nos parapluies, » dit le fils de Louis XVII, qui était le moins lugubre des assistants. On lui jeta des regards de travers. « Quand on n'a rien à perdre, » commença le bon Geoffrey. « Voyadjous, » interrompit Comérol, « ce n'est pas que je me plaigne du trop de foin qu'il a dans mes bottes, mais on aime à connaître ses chefs, et ce marquis-là me déplaît. « Monsieur, je l'ai vu à l'œuvre, » dit le docteur Samuel, dont la néfaste figure ne pouvait pas beaucoup s'assombrir. « Ce garçon n'est pas le premier venu. Il a monté en ma présence une mécanique qui me semblait d'abord grossière et puérile, mais qui a réussi complètement. Cette fille dont je vous ai parlé, la fille à la cerise, est installée à l'hôtel de Chavès, et madame la duchesse l'a bel et bien reconnue. « Ça, c'est joli, » dit Geoffrey, qui eut malgré lui un sourire. « On a beau être de l'opposition, il faut de la justice. C'est joli. » « Qui a les instructions ?» demanda Comérol. « Ce n'est pas moi, » répondit Geoffrey, « et je ne suis pas trop fâché que monsieur le marquis ne m'ait pas honoré de sa confiance. Est-ce vous, docteur ?» Samuel répondit négativement. « Alors, nous en sommes au même point qu'hier au soir, » dit Comérol. « Ce ne sera peut-être pas encore pour cette nuit. » Un soulagement visible éclaira toutes les physionomies. « Ah, mes pigeons !» murmura Geoffrey avec un soupir. « Où est notre ardeur d'autrefois ?»« La tienne est dans ta caisse, bonhomme !» répliqua l'ancien clerc de notaire. Il ajouta, « Je parie que le prudent Hannibal a trouvé moyen de faire une petite absence. Ah, »« Tant pis pour lui !» s'écria le fils de Louis XVII. « Le maître n'a pas l'air d'aimer la plaisanterie. Voyons, buvons un peu, que diable !» Il versa du punch dans les verres, mais personne excepté lui n'y toucha. Comérol se leva et alla ouvrir la double porte du corridor qu'il referma ensuite avec soin. « J'ai déjà examiné les contrevents, » dit-il en reprenant sa place. « Personne ne peut nous voir ni nous entendre cette fois. Parlons à cœur ouvert. Nous nous sommes fait rouler, mais bon, rouler en grand, il n'y a pas à marchander. Nous avions une affaire magnifique, arrangée industriellement. Le duc était à nous, comme le joueur est au croupier, et c'est tout au plus si nous risquions quelques petites brouilles avec la police correctionnelle. Tout à coup, cet oiseau-là est tombé au milieu de nous, par le tuyau de la cheminée, avec tout notre attirail du temps jadis, des couteaux, des fausses clés, la misère. Nous n'avons plus 20 ans, il nous ramène tout droit à la cour d'assises. Moi, ça ne me va plus. « Ça ne va à personne, » fit observer le bon Jaffré. « J'ai vu quelque chose de pareil, » continua l'ancien clerc de notaire, « quand Marguerite de Bourgogne prit de force la maîtrise. Mais Marguerite de Bourgogne était comtesse de Clerc, et nous avions 20 ans de moins. »« 25 ans, » rectifia le bon Geoffrey. « Où voulez-vous en venir ?» demanda Samuel, qui tournait ses pouces avec une apparence de tranquillité. Comérol baissa la voix pour dire « Si on lui brûlait la politesse ?»« Ou la cervelle, » traduisit le docteur, « qui se chargera de cela ?» Il y eut un silence, pendant lequel on entendit marcher dans le corridor. « On vient de la part de monsieur le marquis de Rosenthal, » dit monsieur Massenet au travers de la porte. « Faites entrer !» s'écria Comérol, reprenant son ton de joyeux vivant. « Nous étions en train de boire à sa santé. » Similor, en grande livrée, passa le seuil. Il salua en maître à danser et marcha vers la table, le jarret tendu, les pieds en dehors. À la différence des convives, la bonne humeur fleurissait son teint. Il avait rajeuni de 4 lustres. Il attendit le bruit que devait faire la seconde porte en se refermant à l'autre bout du corridor, et salua de nouveau de l'air le plus agréable. « C'est pour avoir l'honneur de vous annoncer qu'il fait jour, dit-il, grand jour, plein soleil, quoi, et que le diable en va prendre les armes. Il m'est agréable de revoir des chefs à qui j'ai obéi, avec le temps, avec fidélité, et dont je suis devenu presque légal, par le lien de parenté qui m'unit à mon fils, lequel m'a chargé de vous communiquer que c'est décidément pour cette nuit la danse. « Nous sommes prêts à obéir au maître, répondit le bon Geoffrey. « Ah, vous !» s'écria Similor avec admiration. « Ah, vous n'avez pas vieilli d'une semelle. Vous êtes aussi ratatiné qu'autrefois. Oh, par exemple, Louis XVII a été changé en nourrice, et Monsieur Comérol n'a plus si bonne mine. Je boirai un verre de punch avec plaisir. » Samuel lui tendit son verre plein. Similor le lampa d'un trait et prit dans sa poche un pli qu'il ouvrit. « Ordre du maître, » dit-il, en s'approchant de la lumière pour lire, « nos amis doivent se tenir en permanence au lieu ordinaire de la réunion et m'attendre fût-ce jusqu'au jour. »« C'est fait, » s'interrompit Similor, « vous n'avez pas envie d'aller vous coucher, pas vrai, mes vénérables ?» Il reprit, « les simples doivent être réunis chez le marchand de vin de la place Saint-Michel, prêts à partir au premier signal. » « C'est fait, » dit à son tour Comérol, « ils sont là-bas 12 hommes, de premier choix, dont le maître sera content. »« Nous avons encore un assez joli personnel, » ajouta le bon Geoffrey, « par-ci, par-là, dans les coins. »« Je suis chargé, » poursuivit Similor, « de porter moi-même le signal assez brave. C'est moi qui ai l'honneur de mener l'expédition. » Samuel traça une ligne de chiffres sur une page arrachée à son calepin et la lui remit. « Le chef des simples est le vieux Coyatier, » dit-il. « Vous lui donnerez cela et vous direz « Marchef au galop !»« Bon, » fit Similor avec importance, « compris. Je suis chargé encore de vous faire savoir, dans le cas où ça vous plairait de vous mêler à la polka, que le signal pour ouvrir la grille là-bas, avenue Gabriel, est d'allumer sa pipe avec une chimique et que les mots de passe sont « Tempête, tant mieux !» Tout le monde s'inclina. « Je suis chargé, enfin, » acheva Similor, « de rapporter au maître les noms de ceux qui manquent à la réunion de ce soir. »« Il ne manque que notre cher Hannibal, » répondit Geoffrey, « il va peut-être venir. »« Quant à ça, non, » répliqua vivement Similor, « y a-t-il longtemps qu'on m'a coupé la branche chez vous ?» Il y eut dans le cercle des habits noirs un moment de singulier malaise. « Très longtemps, » répondit Samuel sèchement. « Eh bien, » dit Similor, en acceptant un second verre de punch qu'on ne lui offrait point, « ça vous paraîtra comme si c'était du fruit nouveau. À vous revoir, mes vénérables, et soyez bien sages. » Il remit son chapeau sur sa tête, gagna la porte d'un pas théâtral et sortit. Quand il fut dehors, Joffre enfla ses maigres joues et regarda tour à tour ses compagnons. L'effroi était peint sur tous les visages. « Oui, oui, » grommela-t-il avec abattement, « nous sommes des vénérables. »« Vaya-djou !» s'écria Commérol, « s'il ne s'agit que de casser quelque chose ou quelqu'un !»
Hannibal a désobéi, prononça froidement le docteur Samuel.
Joffre glissa vers lui un regard aigu et murmura de sa voix la plus douce, « Le fait est qu'il a désobéi. » Le sang monta aux joues de Commérol, mais il ne parla plus. La défiance était née au sein même du cénacle. Ils restèrent tous désormais silencieux et immobiles, à l'exception du fils de Louis XVII, nature heureuse qui buvait de temps en temps un verre de punch. On entendait la pluie et le vent faire rage au dehors. Ils attendirent ainsi longtemps. Minuit sonnait à la pendule quand le bruit sec et vif du talon de monsieur le marquis de Rosenthal attaqua le carreau du corridor. Le vieux Sanhédrin s'éveilla et toutes les têtes se dressèrent, plus pâles.
Messieurs, dit Saladin en entrant et d'un ton très leste, l'heure est avancée, mais je ne suis point en retard, on ne dort pas encore à l'hôtel de Chavès.
Il alla s'asseoir sur le divan, assez loin du cercle qui entourait la table.
Je suis très las, dit-il, j'ai considérablement travaillé aujourd'hui. Les mesures à prendre étaient fort compliquées, je les ai prises et désormais nous sommes absolument certains du succès.
« Bravo, maître !» dit le prince, tandis que les autres se taisaient. Saladin continua comme s'il eût reçu l'accueil le plus sympathique. « Les 2 millions de la commandite vous regardent, messieurs. Êtes-vous bien sûr qu'ils sont en caisse ?»«
Nous en sommes sûrs, » répondit Joffre. « Moi, reprit Saladin, je puis vous annoncer officiellement que monsieur le duc lui-même a été touché aujourd'hui les 1 500 000 francs envoyés du Brésil chez messieurs de Rothschild. »
« C'est bien de l'argent, » fit Commérol à voix basse.
« Trouvez-vous qu'il y en ait trop ?» demanda le marquis d'un ton sévère. « Messieurs, s'interrompit-il, je n'ai jamais beaucoup compté sur vous. Je veux que vous sachiez bien cela. J'avais besoin de votre organisation et de vos hommes qui sont de bons instruments. Je suis venu vous les demander. Mais quant à vous, votre âge et votre prudence, » il appuya sur ce dernier mot, « vous classent naturellement dans la réserve. »
Joffre et le docteur approuvèrent d'un signe de tête.
Commérol grommela, « Nous n'avons pas encore perdu toutes nos dents. »«
Moi, dit le prince, si on avait voulu, j'aurais été au feu comme un jeune homme. »
Saladin continua, « Il est dans mes intentions de ne pas vous compromettre plus que moi-même. Mais comme je n'ai pas plus confiance en vous que vous n'avez confiance en moi, vous devez être compromis juste autant que moi-même. »
Nous voudrions savoir, commença Joffre.
Ceci est hors de discussion, interrompit Saladin d'un ton péremptoire. J'ai dit, je le veux.
Maintenant, je désire vous mettre rapidement au fait de ce qui va avoir lieu. J'ai passé la plus grande partie de la journée à l'hôtel de Chavès, où je suis un peu comme chez moi. Le docteur Samuel a pu vous en dire la raison. Je connais les êtres de l'hôtel aussi bien que si je l'avais habité 10 ans. Je n'ai pas à vous apprendre que les bureaux et la caisse sont dans l'aile droite au rez-de-chaussée, gardés par 2 employés que monsieur le duc a amenés du Brésil et qui couchent dans les bureaux même. Ils sont tous les 2 très bien armés, mais ils ne s'éveilleront pas cette nuit. J'y ai mis ordre.
Hein ? Fit le prince avec une velléité d'enthousiasme. Nous avons enfin un homme à notre tête.
Ne m'interrompez pas, dit Saladin, sans perdre sa froideur. « Monsieur le duc de Chavès habite le 1er étage, à gauche, en entrant par l'avenue Gabriel, tandis que madame la duchesse occupe l'aile droite. J'ai fait en sorte que mademoiselle de Chavès, dont il a été question entre nous sommairement l'autre soir, ait pris pour logement particulier un très joli pavillon en retour sur le jardin. Vos hommes, les simples, comme vous les appelez, ont à l'heure qu'il est la carte exacte de ces diverses distributions, et mon valet de chambre, si vous aimez mieux mon père qui les conduit, a pu, grâce à moi, visiter les lieux au jour. Mademoiselle de Chavès, qui n'a rien à me refuser, attendra à la grille.
« Par le temps qu'il fait, » murmura le bon Joffre, toujours compatissant, « pauvre chère jeune personne !»
« C'est un beau temps, » répliqua Saladin. « Le feu d'une allumette chimique lui donnera le signal d'ouvrir. Elle échangera le mot de passe avec nos hommes et les conduira elle-même au bureau dont elle a la clé. »«
Ah, quel ange que cette jeune demoiselle! S'écria le prince attendri. Les autres, malgré eux, écoutaient avec intérêt. Ils ne pouvaient refuser à ce maître qui s'imposait à eux la précision du coup d'œil et la netteté de l'exécution. Autre chose, poursuivit Saladin, l'ancien maître Annibal Guilloja est en ce moment même à l'hôtel de Chavès, où il a introduit une jeune fille que je lui avais ordonné de respecter. Ce n'est pas à vous, messieurs, que j'ai à rappeler les lois de notre institution. Vous allez, s'il vous plaît, décider à l'instant même du sort d'Annibal Guilloja. Suivant mon opinion, c'est le cas de « couper la branche ». Cette expression que nous avons déjà employée et qui a son explication dramatique dans un autre récit fait partie du vocabulaire secret des anciens habits noirs ou frères de la Merci. C'était un peu, et dans une acception plus terrible, ce que les boursiers appellent « exécuter un homme ». Il n'y eut qu'une seule voix pour prendre la défense du malheureux Napolitain. Comérol prononça quelques paroles timides en sa faveur. « Je n'ai ni haine ni colère contre Annibal Guilloja, » répondit Saladin. « Il n'a fait que son métier en vendant cette fille, mais en faisant son métier, il nous a nuit. Cela suffit pour qu'il doive être châtié. « Maître, » demanda Geoffrey, « puis-je faire une observation ?» Saladin répondit par un signe de tête affirmatif. « Annibal est un fin matois, » dit le bonhomme, « et il vous connaît aussi bien que nous. » « Les oreilles doivent lui tâter en ce moment, comme s'il entendait ce que vous venez de dire. »« Vous craignez qu'il trahisse après avoir désobéi ?» demanda Saladin. « Je crains que ce ne soit chose faite. La police est peut-être déjà à l'hôtel de Chavès. » Samuel Comérol et le prince lui-même semblaient fort ébranlés par cette opinion. « Mes frères, » répondit Saladin, « il se jouera plus d'un drame cette nuit à l'hôtel de Chavès. Vous ne savez pas encore ce que je vaux. » Monsieur le duc sera fort occupé, et on n'entendra guère au premier étage nos travailleurs du rez-de-chaussée. Quant au vicomte Annibal, il n'est pas homme à casser les vitres sans nécessité. Je l'ai vu aujourd'hui même, et comme, par des motifs qui me regardent, j'avais complètement changé d'avis au sujet de la jeune fille dont il s'occupe, je lui ai donné à peu près carte blanche. En le jugeant, d'après son caractère, il aura voulu gagner deux fois, d'abord le prix de l'enlèvement, ensuite sa part dans l'opération. « Mais, dit Comérol, si vous lui avez donné carte blanche, il n'a pas désobéi. » « Nous, de notre côté, » poursuivit Saladin sans répondre, « nous suivons l'antique usage de notre association. Pour tout crime, il faut un coupable. Annibal est tout rendu sur le théâtre du crime. Je veux qu'il soit le coupable. »« Il parlera !» s'écrièrent deux ou trois voix. Saladin repartit lentement. « Il ne parlera pas. » À ces derniers mots, il se leva après avoir consulté sa montre. « Messieurs, dit-il, vous êtes armés, je suppose ?» Qu'ils l'étaient, les malheureux, surabondamment. Ce qui gonflait leurs poches, c'était des armes de toutes sortes, pistolets, casse-têtes et couteaux. Ils avaient des épées dans les manches de leurs parapluies. Jamais si mauvais soldats n'avaient porté à la fois plus d'engins de destruction. Quand Saladin donna le signal du départ, chacun d'eux mit en ordre son arsenal. C'était à faire frémir. Dans les doublures du seul Geoffrey, ce bon, ce pacifique propriétaire, on eût trouvé de quoi défendre une barricade. Ils suivirent Saladin, leur général, et traversèrent la grande salle du café Massenet, où il n'y avait plus personne. Les garçons avaient retardé la fermeture de l'établissement par respect pour eux. « Nous avons fait une petite débauche, » dit Geoffrey en passant. « Nous dormirons demain, la grasse matinée. » Ils sortirent, faisant la tortue avec leurs parapluies, j'allais dire leurs boucliers, pour gagner deux fiacres qui les attendaient au dehors. Monsieur Massenet, qui les regardait monter en voiture, fit cette observation. « Je ne sais pas s'ils se sont bien amusés ce soir, les braves messieurs, mais ils s'en vont comme des chiens qu'on fouette. » Vers 2 heures du matin, la pluie tombait par douches et le vent secouait les grands ormes des Champs-Élysées. Certes, dans l'opinion des sergents de ville chargés de faire patrouille et qui avaient cherché un abri je ne sais où, pas une créature humaine ne devait être égarée sous ce déluge dans toute l'étendue de l'immense promenade. Deux fiacres venaient au petit trot, enlongeant le garde-meuble conduit par des cochers que le poids de leurs carriques inondées écrasait.
soit par suite de l'orage, soit que la main de l'homme y fût pour quelque chose, les deux becs de gaz qui étaient à droite et à gauche du jardin de l'hôtel de Chavès ne brûlaient plus. Il y avait là un espace d'une cinquantaine de pas qui semblait noir comme un four. Au milieu de cet espace sombre et juste en face de la grille, une allumette chimique cria, puis flamba. Ce fut tout. Personne ne se montra dans le jardin, au-delà duquel on voyait briller plusieurs fenêtres de l'hôtel malgré l'heure avancée. Une seconde tentative du même genre eut le même résultat. C'était 6 000 or en personne qui donnait ainsi le signal convenu en protégeant l'allumette sous l'abri de son chapeau. « La demoiselle aura eu peur de s'enrhumer, grommela-t-il. C'est pourtant une jolie nuit pour travailler. » Un œil habitué à l'obscurité aurait pu voir que 6 000 or n'était pas seul. Autour des arbres voisins, il y avait des ombres qui se mouvaient, et un homme, courbé sous la pluie, marchait à pas de loup le long de la grille. Du bout de l'avenue, qui ouvre sur la place de la Concorde, les deux fiacres venaient. L'homme qui marchait le long de la grille s'arrêta en poussant une exclamation d'étonnement. « La porte est grande ouverte » murmura-t-il. « Bah !» dit 6 000 or, « entrez voir, marchef, mais pas d'imprudence !» Coyatier entra dans le jardin tout noir et disparut au bout de quelques pas. Les deux fiacres arrivaient. 6 000 or alla vers la portière du premier et raconta ce qui venait de se passer. « Il y a 1 heure que nous sommes ici, dit-il, et de 5 minutes en 5 minutes, j'ai donné le signal, rien n'a bougé. » En ce moment, Coyatier revenait de son excursion. Il dit « La porte de la maison est grande ouverte aussi. »« Que faire ?» demanda 6 000 or. La portière du premier fiacre s'ouvrit, et Saladin sauta dans l'eau qui baignait l'allée. « Venez, messieurs, ordonna-t-il à ceux qui restaient dans les voitures. » L'instant d'après, sous un toit formé par 6 parapluies, les membres du club des bonnets de soie noire délibéraient. Les avis étaient partagés, ainsi, dans ce conclave. Comérolles, le bon Geoffrey, le docteur Samuel et le prince lui-même opinaient pour qu'on s'en allât. Mais Saladin, seul de son bord, leur ordonna de rester. Et ils restèrent.